Alors, hier, j'étais allé voir un très bel expo de Picasso que je vous conseille, Musée d'Orsay, un très bel expo. Et la personne qui a fait un petit discours pour expliquer cette expo, il a parlé d'admiration de Picasso, de risques, de courage. Et d'ailleurs, c'est pour ça l'obsession de Picasso avec le cirque, c'est-à-dire qu'on est en train de marcher sur un corde très tendu. Et d'ailleurs, on peut même expliquer tout le parcours de Picasso, qui va être un autre sujet peut-être plus tard, avec cette admiration et cet attachement au risque qu'on prend. C'est pas un hasard que dans les leçons inaugurales, j'ai parlé avec beaucoup de tendresse de Picasso et aussi la nécessité d'évoquer les mémoires comme il a fait avec le Guernica et l'impact tardif des mémoires sur la politique contemporaine. C'est-à-dire les mémoires, il n'a jamais un impact immédiat, heureusement, peut-être malheureusement. C'est toujours un travail de synthèse transmis par les gens qui conservent la mémoire et un jour ça ressort et c'est peut-être l'essence de mon travail depuis 40 ans comme cinéaste. Aujourd'hui, je vais vous montrer des extraits parce que mon langage c'est le cinéma, alors je vais parler mais aussi je vais vous montrer des extraits. Je vais continuer avec le film qu'on a montré la semaine dernière. Alors, Ananas, et après, on va revenir vers le Moyen-Orient, journal de campagne, et si on a le temps, un court-métrage sur le 9-11. Mais on peut dire que dans le sens général, j'étais toujours intéressé par parler du Moyen-Orient d'Israël, parce que d'une façon un peu anachronique, c'est une région qui sollicite toujours des opinions. C'est-à-dire même les gens qui sont extérieurs à cette région, ils sont toujours d'idées très tranchées. Qu'est-ce que doit être la solution? Qu'est-ce que doit avoir l'opinion vis-à-vis cette groupe-là ou un autre? Une région qui est très particulière parce que si on regarde d'autres conflits mondiaux en Irlande, en Europe, etc., les gens ils sont plutôt des idées pas si tranchées, mais Israël et le Moyen-Orient sollicitent toujours d'opinion. Et d'ailleurs, c'est pour ça les sources, les raisons d'être que j'ai senti la nécessité de faire un cinéma fort qui dialogue avec cette histoire contemporaine et qui n'est pas toujours timide, qui dit les choses qui sont, à mon avis, nécessaires. Parce que cette particularité de cette région, qui tout le monde, israélien, palestinien, juif, arabe, des autres, il y a beaucoup des autres, ils sont toujours d'opinions très tranchées. Et souvent, il manque les perceptions complexes et contradictoires de ce conflit. Et c'est la raison de faire des films qui sont complexes et contradictoires, qui sollicite les contradictions et pas strictement une idée binaire. C'est-à-dire, pour moi, le Moyen-Orient, il n'est pas divisé entre in English, bastards and angels, parce que tous les deux ils sont bastards and angels, et chacun avec son histoire. Alors, il faut que le cinéma donne l'espace à cette présentation. Et comme ce n'est pas le projet d'un film solitaire, j'ai fait quand même pas mal, Kadosh, Kippour et les autres qu'on va parler. Alors ça, c'est un tout petit introduction. La semaine prochaine aussi, on va parler avec Jean-Michel Frodon de Kippour. Après, la semaine après, je vais parler des rapports entre l'architecture et le cinéma. Et la semaine après, des rapports entre le cinéma et l'histoire. Le cinéma et la littérature, etc. Je crois que vous avez le programme de cette mission très honorable que j'ai en train de faire. Alors, je vais commencer avec un très bel petit une petite citation, malgré que je n'ai pas le texte complet d'André Breton, dans son manifeste surréalisme. Il a dit que, moi je connais le terme anglais, « We have to give power to the accidental ». Si je traduis d'une façon approximative, il faut donner le pouvoir au hasard. Et c'est vrai que le hasard, c'est une chose très compliquée à intégrer dans un projet si structuré comme le cinéma ou le théâtre ou l'architecture. C'est-à-dire comment on peut capter une idée qui glisse notre contrôle, mais qu'un coup de chance, elle traverse notre parcours. Et on va la saisir, elle devient l'objet lui-même. Et je crois qu'André Breton, dans ce très bel texte que Florence avait la gentillesse de préparer, Manifeste de surréalisme, il parle de cette question des hasards. Alors, je reviens à mon parcours avant le premier extrait. Alors, comme on a parlé dans les séances précédentes, j'ai fait cette série de films House, que vous avez vu, d'extraits, Wadi, journal de campagne, qu'on va voir aussi d'extraits aujourd'hui. Et après cette trilogie documentaire, mes chers compatriotes m'ont dit que vraiment j'ai rien à chercher là-bas, parce que je pose des questions pas très fréquentables, et je dois chercher ailleurs. J'avais devant un dilemme, ou je reste dans un petit café sympathique à Tel Aviv et tout le monde va montrer le doigt sur moi, il a dit « cette messie-là, il était vraiment doué, c'est dommage, etc. » avec plein de sympathie chez Lorieux, ou je vais aller chercher ailleurs. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Picasso. Alors moi j'aime bien des fois de prendre des risques, d'aller chercher le hasard. Et on est parti à Paris avec Rivka, et j'avais pas de boulot. Et comme je racontais la dernière fois, alors un ami de la télévision britannique, il m'a dit, mets un peu de côté le Moyen-Orient, cet Moyen-Orient très riche que je viens de décrire, qui est tellement douloureux, mais aussi dense et intéressant, de plein de couches d'histoire qui mérite un cinéma fort, et fais autre chose. Alors, comme je racontais la dernière fois, mais des fois je répète un peu pour les gens qui n'étaient pas là. Alors, un jour, il m'a dit, fais un film sur le tiers-monde. Et un jour, je viens d'ouvrir le frigo et je trouvais une boîte d'ananas. Et je regardais bien l'étiquette de cette boîte d'ananas qui était d'une compagnie américaine qui s'appelle Dole Pineapple. Et sur l'étiquette, c'était écrit « Produced in the Philippines, packaged in Honolulu, distributed in San Francisco ». Et je racontais que comme j'ai gratté, c'est écrit « Printed in Japan ». Et on parle de 1983. Alors, je me dis, bon, je peux raconter quelque chose sur le tiers-monde. Et ce film-là, qui était fait beaucoup avant, parce qu'on parle maintenant d'exactement 25 ans, un quart de siècle, même avant que le terme mondialisation existait, est devenu une sorte de métaphore. D'ailleurs, métaphore vis-à-vis les choses qu'on a parlé la semaine dernière, c'est aussi un rapport avec House, qui est aussi une parabole, une métaphore, un microcosme de Jérusalem, avec tous les destins attachés à cette maison. Est-ce que je viens trop vite ou ça va? Ça va? Alors, c'est un rapport avec House, Ananas, c'est-à-dire les grandes capacités de cinéma documentaire, de ne pas être bombardé par des voix off, mais de nous faire une sorte de juxtaposition de séries de fragments biographiques qui va, eux, nous raconter l'histoire. Et cette boîte d'ananas, elle peut nous amener vers certaines compréhensions des grands processus politiques, le tsunami actuel qui produit Trump, etc., parce qu'elle parle des systèmes de multinationales, de capitalisme avancé de notre temps, dans lequel les grandes compagnies occidentales traverse la planète en cherchant des profits. Et l'histoire des ananas que j'ai commencé à découvrir grâce à cet objet-là que j'ai mis dans l'espace, grâce à désir de prendre des risques et de raconter l'hasard, cet élément-là, raconte quelque chose sur le grand processus mondial. Pourquoi ? Alors, sur cette étiquette, c'était écrit aussi Dole Pineapple. La semaine dernière, on a vu l'héritier de Dole Pineapple. C'était écrit aussi A Division of Castle and Cook. Castle and Cook. Tout ça, c'est des informations visibles. C'est-à-dire, la question est comment on fait un travail d'interprétation, d'archéologie, de commentaires, d'objets qui sont visibles, qui sont dans l'étagère des supermarchés. Comment chaque objet représente des rapports de pouvoir, d'exploitation, de grands processus politiques. Comment, si on creuse dans chaque objet, on comprend quelque chose de plus grand. On n'a pas besoin de faire des leçons de capitalisme et de multinationales seulement, mais on peut aussi regarder l'objet et essayer d'interpréter. Alors, la télé britannique qui a pris l'initiative d'aider dans ce projet, elle m'a donné la possibilité de faire ce film. Et là, j'ai commencé une grande recherche. Alors, j'ai lu que je conseille à tous les collègues de commentaires. C'est-à-dire, il faut d'abord amasser des informations dans notre petit cerveau, même si on ne va pas utiliser telle quelle toutes les informations. Mais il faut comprendre le contexte. C'est-à-dire, le pire, c'est les gens qui viennent avec la caméra sans lire rien, ils veulent lire peut-être Wikipédia, ils commencent à filmer. Non. C'est mieux de comprendre beaucoup plus que les éléments qui sont nécessaires pour travailler. Il faut qu'on comprenne le contexte dans lequel l'action de commentaire de ce site archéologique se passe. Alors, je l'ai lu, j'ai fait appel à mon classe de mon université Berkeley, d'économiste marxiste sur l'économie des tiers-monde. Et j'ai relu certains textes. J'ai relu certains textes, même de Karl Marx, comme il parle des rapports entre le use value et exchange value. J'ai oublié le terme français. Valeur d'usage, valeur d'échange, d'échange. C'est-à-dire, après, les copains, ils m'ont proposé de voir les représentants. Alors, les Philippines, le film passe partiellement aux Philippines. Dans cette époque des années 80, les Philippines, elle est sur loi martiale par le colonel Marcus, avec des armées, des répressions très féroces. Et la question est aussi de niveau pragmatique, comment on arrive de rentrer dans ce pays qui est géré par les lois martiales, que les compagnies américaines en question aient là une armée privée, que le dernier qui a essayé de documenter était un photographe hollandais tué sur la plantation du sud des Philippines. Qu'est-ce que doit être la stratégie de pénétrer le ventre de cet éléphant, comment il faut procéder. C'est-à-dire qu'il y a les questions d'études thématiques, il y a des questions de stratégie de commentaires. D'ailleurs, hier, dans l'expo de Picasso, il a parlé beaucoup de stratégie de Picasso. Les personnes, c'était très intéressant, d'ailleurs. C'est-à-dire comment l'artiste, le cinéaste, l'écrivain, qu'est-ce que peut être la stratégie d'aller filmer dans cette type d'endroit. Alors, je reviens à cette étiquette qui est le centre. Alors, l'étiquette, c'est écrit Dole Pineapple, A Division of Castle and Cook. Alors, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que la procédure, qu'est-ce que l'histoire de Honolulu d'abord, de Hawaï. Alors, Hawaï, c'était une île autonome qui avait une monarchie autonome. Géré par un roi de Honolulu. C'était pris par les Américains d'abord comme un territoire extérieur, la colonisation de cette île. Et cette époque-là, le Castle and Cook, le célèbre Castle and Cook, un coup, qui sont sur l'étiquette de Pineapple, des boîtes, sont été démissionnaires, qui, comme ils ont fini leur travail de conversion de Boston, ils ont été un peu ennuyés, cherchaient un endroit un peu plus beau, j'imagine, et ils sont partis à Honolulu pour continuer leur travail de convertir les tribus indigènes de Hawaï. Et comme ils ont fini à convertir, j'imagine, un bon parti d'indigènes de Hawaï, ils ont dit, bon, c'est très bien d'être missionnaire, maintenant il faut commencer à faire le business. Alors ils ont ouvert une petite boîte de plantation d'ananas à Honolulu. Et après, ils ont pris un mec qui s'appelait Dole, mais plus loin, il était même mis comme président de Hawaï. Et plus tard, il était élu d'une façon, disons, démocratique, et comme le premier gouverneur. Et Hawaï était annexé. Aujourd'hui, Hawaï fait un des États des États-Unis. Alors, on voit déjà dans les Hawaï toutes les procédures de. Et moi, je reviens, je ne suis pas été élu au célèbre Collège de France comme professeur d'histoire, je suis simplement un cinéaste, etc. Alors, comment cet objet-là, un film, il peut nous dévoiler le processus beaucoup plus large, culturel, politique, économique, mais aussi, il ne faut pas oublier le cinéma. Alors, pour ne pas vous fatiguer trop avec mon discours, je vais vous montrer un extrait. Il faut faire aussi attention à un des sujets qu'on va parler dans les semaines qui suivent, c'est la question des sons. Parce que pour moi, les sons et les musiques, je parlais avec les gens qui, comme j'ai fait le spectacle à Philharmonie, la musique est toujours un point de départ très intéressant. Parce que la musique ne va jamais avoir un rapport illustratif aux images. Il va avoir un rapport plutôt dialectique, c'est-à-dire il doit charger l'image avec une autre signification. Elle va produire une sorte de mood, une sorte d'esprit de film, sans être strictement un gadget illustratif. Alors, comme vous voyez, j'ai choisi trois extraits d'Ananas. Comme vous voyez, la musique, elle est vraiment une sorte de voix d'opposition, souvent, à l'image. Elle travaille presque contre l'image, mais elle charge l'image d'une autre, c'est-à-dire on a une couche qui est l'image, l'interview, les conversations, le paysage, et on a aussi les couches de sons qui marchent, qui font une marche un peu obsessive contre l'image, qui veut qu'on n'oublie pas l'origine. Et les sons que j'ai choisis, c'est des musiques vernaculaires qui font une sorte de travail d'opposition presque aux images. Et avant que je lance l'extrait, alors c'est connecté aussi des questions qu'on a posées dans une des séances précédentes. C'est-à-dire que pour moi, vraiment le grand phénomène de notre temps, c'est le déplacement, le displacement. C'est-à-dire les gens, ils ont quitté leur foyer par les guerres, par être réfugiés, par discriminer, par l'immigration. Aussi par l'immigration des raisons économiques et par les métropoles urbaines. Et tout ça, toute cette rupture, toute cette cassure de foyers et d'existence qui était le cas de beaucoup de siècles, c'est-à-dire dans lequel il y a génération après génération qui grandit dans les mêmes lieux, les mêmes décors, qui soient les mêmes souvenirs, les mêmes odeurs, les mêmes végétations. Là, l'humanité est composée de gens qui étaient tous déplacés. Et il faut que, mon idée dans l'époque, c'est qu'il faut que le cinéma dialogue avec ce phénomène. Que même dans Israël, Israël est le foyer des juifs qui étaient rescapés des Shoah, des juifs qui étaient chassés après la montée du nationalisme d'Afrique du Nord. Les Palestiniens qui étaient chassés par les Israéliens de leur foyer, c'est-à-dire c'est une fille composite, complète, des gens déplacés. Mais c'est aussi plus large que l'endroit où j'étais né, parce que c'est un phénomène mondial. Et ça, c'est des choses qui m'ont intéressé, comme j'étais allé voir Alors là, on va voir le premier extrait. Et aujourd'hui, c'est Madeleine qui remplace Laurent. Et alors, on va... le premier extrait, il commence avec l'endroit où on fait le packaging d'ananas. Et on va avoir un premier extrait. Après, on va parler aussi de la religion et le colonialisme plus tard. Mais on va voir déjà celui-là.
Perhaps more interesting than all of that is the fact that the pineapple is the most controllable crop in the world. And taking that all into consideration, I like to say that the pineapple is the most sophisticated crop in the world. We are able and have been able for many years since the 1930s to induce a crop of pineapple to fruit on command by spraying one or another of several chemicals on the crop. We call that induction in a classical sense, or forcing, or sometimes hormoning. But it means that we can make the vegetative plants set fruit on command anytime. Therefore, we can produce and we can actually plan ahead for a crop throughout the year. In addition to that, once the fruit is produced on the plant in the green stage, almost like this color here, it is possible to spray with another chemical, which causes the pineapple to ripen artificially in the field. This latter technique is used particularly for canning pineapple so that harvesting can be done all at one time. For fresh fruit, we do not do that because we want each fruit to be picked individually at maximum quality. Because we have these techniques, we say then that this is the most controllable crop, and in fact, I know of no crop that can be induced to harvest at command, other than pineapple. Yeah.
But I think as a professional of probably one of the world greatest professionals of pineapples, I think that there is some sort of pleasure as a, maybe you can talk a little bit, what can you do really with pineapple and...
Because pineapple does have all of these elements of control or sophistication, those of us who've worked with pineapple, as I have for some 20 years, find it extremely frustrating to work with other crops which can be only controlled by the time of planting, for example. We are so accustomed to designing our harvest according to command that it troubles us considerably to have to deal with other major crops such as sugarcane in the tropics. Now, one of the interesting tricks about this top is, let's suppose that the tops are larger than we'd like. Let's suppose, for example, they do not fit in a pineapple box the way we would wish. We have another chemical available to us now that we can spray in the field when this top is very small that then restricts the growth. And as a consequence, we can make this top just about any size we wish, or in fact, eliminate it entirely. So there's another element of control. To illustrate my point, in Hawaii, for example, where some 45,000 acres of pineapple are grown, especially for the fresh fruit production, they simply are able to produce fruit on command any week of the year. And in fact, that's been the secret in the growth of the fresh pineapple market, that is to say, having it available every week of the year.
Thank you. get out. Get up out of the way and get out of the way. I'm all
necessary to move the production elsewhere. The most natural source for fresh pineapple is Philippine Islands. In the Philippine Islands, pineapple production is almost entirely on the island of Mindanao, which is the largest island in the Philippine group and also the one of the most southernmost. I would say that in the Philippines, layout of both very large plantations are beautiful. However, both settings are beautiful because mountains are involved and the natural terrain is beautiful to see. I might add that one of the best times to film a pineapple field is either relatively early in the morning or late in the afternoon. When the crop is backlighted, it is an absolutely striking picture. We often jokingly say that if we want to sell a pineapple farm, we're inclined to take our clients around late in the day or early in the morning. So I would suggest to you that those are the best times to do the filming, which is a happy coincidence because it's by far the most comfortable time to be in a pineapple field in the tropics. It gets rather hot during the middle of the day.
Alors là commence le voyage de pineapple, de ananas. Vous voyez que vis-à-vis la définition d'André Breton sur le hasard c'est que cette boîte d'ananas m'amène vers le fruit qu'apparemment cet grand expert de San Francisco considère que le plus controllable, que le plus contrôlable, qui lui fait un grand plaisir. C'est-à-dire les métaphores, des fois, quand on tombe par hasard, ce n'est pas moi que je savais que c'est le plus contrôlable, et nous amène vers des réflexions très intéressantes, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment très concentré et très à l'écoute. Comme aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer pas mal d'extraits, parce que j'ai expliqué à Collège de France que comme je ne suis pas un écrivain ni un mathématicien de... Excellent. Mon médium, c'est le cinéma. Alors, pour partager certaines décisions, je suis obligé de vous montrer certains extraits. Vous avez bien noté la musique. Et on était avec Nourit Aviv, on a filmé cette chant. Nourit était dans cet avion pour filmer le chant d'Ananas, qui remplace dans les pays comme les Philippines, dans les îles de Mindanao, toutes les nourritures de subsistance, c'est-à-dire comme les compagnies ils ont pris l'espace le plus productif point de vue agricole, ça produit tout de suite de pauvreté. Ce n'est pas un hasard qu'Al-Qaïda, le site d'Al-Qaïda aux Philippines était dans la même île, dans laquelle les gens ils sont pas assez à manger parce qu'on produit pour l'Occident comme un des femmes, il va vous montrer tout à l'heure les desserts. Elle a dit il faut qu'on mange d'abord quelque chose qui peut nous nourrir avant qu'on mange les desserts pour exporter à l'Occident. Alors, c'est là où le cinéma, il peut nous faire découvrir des horizons, pas strictement par des belles images, mais aussi pour nous faire participer, pour solliciter le travail du public d'être interprète et pas consommateur. Pas un consommateur comme on consomme des pineapples. D'ailleurs, mes amis qui étaient avec moi dans ce voyage, pendant 10 ans après, ils ne sont pas touchés à un ananas. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous montrer un autre extrait, après je vais parler. Alors on lance la prochaine. Ouais.
We don't now believe what their forefathers have believed. A long time ago, they are not burying their dead, especially the children. They are just hanging it on the tree that because they believe that the spirit will be incarnated. But now, they believe that the spirit of a child will go directly to heaven, as what the Bible has said. And at the time of resurrection, that child will be resurrected. That's what they believe.
Why do you think it's better to have them converted into a religion which is European? It's not Filipino originally.
I am so eager to convert them in a faith that is in God, so that whatever problems they have their gods wherein they can come on to tell their problems. And besides that, if they are not converted to Jesus Christ, they will be rebellious. I experienced it for the first time we were here. Plenty of them are getting our plants without any permission. But now that they are Christians, they have learned to fear the Lord.
What sort of rebellions did they have when they were not Christians?
When they were not Christians, they were sometimes they were so savage. They were so unconsiderate. But now they learn now how to fear the Lord. And besides, if they are always going to church, they are not only privileged to learn the faith in God, but they are also privileged to learn something. Because I just don't let them teach about God, but I always teach them another subject, for example, like cooking, how to deal with their children psychologically, and other things that will help in their livelihood.
Why do you think the old ways are not good?
Old ways are not good because sometimes you cannot talk to them. They are hiding. They are so shy. So we brought them up not to be shy, telling them that we are created by God equally, even though we does not belong in the same tribe. God loves us and He died for us all. So then they are brought up to not to be shy, but to be equally level with other people.
What is bad in being shy?
Oh, it's so bad in being shy because you cannot communicate with them. They are closing their door if they are so shy. You cannot talk to them.
What is the problem if they close the door?
Then if they will close the door, you cannot communicate to them. If you want something to get from them, you cannot talk to them.
Why is it important to communicate?
It's important to communicate because if you cannot communicate, we do not know what you are feeling and what I am feeling. What is your needs and what is my need if you cannot communicate with other people?
But they were more self-sufficient before, no?
Self-sufficient? They just I just don't know that they say that they are praying directly to God spiritually. They don't use any object as an object for worshiping. They just direct it to the Lord in spirit, in their minds only, and know that they know that God is a spirit and they know that God can answer them. Most of them are not having their own lands. Therefore, they will transfer to another place. They will migrate. I let them know that God loves them and God has a plan for them, especially in salvation. And then I let them know that whatever they do, whatever situations in life, God is the ruler of it, and then they will accept it.
Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'effectivement, les multinationales utilisent la religion, c'est-à-dire cette femme baptiste qui était envoyée et d'ailleurs aidée pour expliquer que les façons indigènes vernaculaires de la religion locale, ils sont plus valables. Parce que qu'est-ce que c'est-à-dire les le paradis au terme de vision de cette femme, c'est comme une banque collective, c'est la même structure, c'est-à-dire il faut avoir un bon rapport avec les banques, avec l'Église, pour que votre âme, elle va être réincarnée. Si on n'a pas un bon rapport avec les banques, tant pis pour nous. Et la vision animiste pré-monothéiste, c'est-à-dire qu'il y a l'âme qui va, avec la mort, voyager et chercher un autre animal ou un être humain, est le plus valable. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'autonomie des choix individuels de chaque âme de trouver où il a envie de... Je fais un peu vulgarisation des choses qu'il dit, mais il n'y a pas le choix autonome de chaque âme de choisir où elle va être réincarnée. Non, il y a une notion centraliste d'église ou de religion qui garde le pouvoir et pour que les portes de paradis, on peut dire, ne vont pas être fermées, il faut tenir un bon rapport avec les banques de l'âme, avec la religion. Et ça, toujours, André Breton, il a raison, parce que c'est le hasard. C'est-à-dire, et je reviens même à une petite chose que notre Jeanne Moreau, qu'on a parlé d'elle dans les leçons inaugurales, elle m'a dit, comme elle a accepté de travailler avec moi, elle m'a dit, ah, moi, si je vais faire un film, c'est parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose que je ne connais pas encore, qui est très différent de beaucoup d'interlocuteurs, d'acteurs et actrices qui adorent répéter les choses qu'ils savent déjà. C'est-à-dire, on pose des questions dans l'espace, comme des équations mathématiques, comme je suis au Collège de France, au physique, au biologique, on pose des questions dans l'espace. Cette question qui est posée dans l'espace, elle va nous apprendre beaucoup de choses qui en restent ouvertes, on laisse... Cette petite boîte d'ananas, cette métaphore nous racontait quelque chose sur la planète. Et comme j'ai dit, je fais un petit jump, comme j'ai dit, la politique actuelle, c'est-à-dire le déracinement brutal de tous ces gens de foyer, et on arrive dans le stade de politique mondiale aujourd'hui, postmoderniste, qui n'y a aucun attachement, aucun repère. Et cette fibre ananas qu'on a fait il y a un quart de siècle, il avait quelques clés. Alors, c'est-à-dire vraiment cette missionnaire adorable qui partage avec moi d'une façon de synthèse très simple et très claire la place de la religion dans les colonisations, dans les changements révolutionnaires de comment on peut coloniser un territoire, pas strictement par la force et par l'armée, mais il faut changer aussi la perception des gens. Il faut l'expliquer que toutes les vieilles méthodes, parce que la religion, finalement, c'est une mode d'interprétation des réels, toutes les vieilles méthodes, ils sont caduques, ils sont plus valables. Il faut aller vers une idée qu'il y a une... Il y a une institution centraliste forte. D'ailleurs, l'Église n'était pas si innocente et attachée aux vraies leçons de vrai Jésus historique, qui était, j'imagine, plutôt un homme sensible aux injustices sociales, mais elle était imposée avec la force, avec l'Inquisition. Savager toute l'Amérique latine, je ne parle même pas des rapports avec les Juifs qui étaient brûlés par l'Inquisition et torturés, mais toute l'Amérique latine, une bonne partie de la planète, par cette prétention très pacifique qui met les autres. Alors, et c'est pour ça l'avantage de faire des films sans voix off, parce que moi, je n'ai besoin de rien dire. Je vous montre des extraits, des fragments, et c'est vous les interprètes. Et comme j'ai dit aux premières leçons, le meilleur film que j'ai vu comme spectateur commence comme la projection est terminée. Parce que là, les images sont inscrites, sont enregistrées, et après on va promener, on va accepter, faire opposition, faire un travail d'interprétation, et c'est ça le bon travail de cinéma. Bon, comme aujourd'hui, j'ai ramassé peut-être beaucoup d'images, parce qu'après on va revenir quand même au Moyen-Orient, je vais vous montrer un autre extrait d'Ananas.
Many of us here in Pulumulok, inside Pulumulok town of Pulumulok, is very poor because of the, sometimes we need work so that our families will be never be surprised and never be get angry.
But why some people are rich and some people are poor?
Sometimes the government help poor. Sometimes the government is helping also rich one people.
They more often work, help the rich or the poor?
As I know, here in our town, they don't need helping poor people. They need helping those big stomachs. That's why we poor people, sometimes we cry. We are crying.
Why do you cry?
Sometimes when I was in a cheat working here, I need help to someone rich here in our town. But they told me when I came from them to ask help, we have nothing to do with you. So when I was not cheat working here, and I was not cheat Pulumulok aid, day and night I'm sacrificing my life because of my 7 son child crying. We are crying for tears because we are sometimes hungry. Nothing rich help us. Now I'm working, but I do not know. Some days will come. I cannot say what is my future. Sometimes I'm asking Lord Jesus, why is it that I'm poor? And why is it there are so plenty of rich? There is no justice. If we have justice, why those poor people needing help for the rich one? Nothing will be done. Nothing. I'm so very happy that you come here inside Pulumulok, so that you can know what is wrong in this town.
What really attracts the multinationals to come in this part of, you know, the globe, the Philippines? I think it's more of like cheap labor. They take advantage of that. I don't think our workers have really experienced a strong labor organization. That's tantamount to less cost of production, so it's good for business. You can observe the land area that's occupied by this company is very huge, you know. And considering that we are in need more of what are very much basic for our nutrition as Filipinos. So before we take desserts, we better think of the basic needs like rice.
You can understand. Even Filipino speak. Kung sa problema dito, marami. Hindi lang pera ang problema dito. Marami pa. Pero yan ang numero uno, pera ang pa dito, problema sa Pilipinas. Kasi, alam mo, mahal ang bibilhin dito sa Pilipinas. lahat na bibilhin, mahal. Bigas, isda, at saka marami pang bagay. Kaya kahit gabi, sige, trabaho ng mga Pilipino dito. Bisip or nagsip. Sige, trabaho. Maraming problema ang Pilipino. Gaya sa Amerikano, walang problema.
Alors, c'est-à-dire le cinéma, cet médium très très fort, il a la force et le moyen de nous, s'il ne reste pas strictement sur les showbiz, les films d'exploitation, de montrer, de partager avec nous certaines compréhensions. Et personnellement, comme après le film documentaire House Wadi, journal de campagne, tout à l'heure on va voir aussi un morceau de journal de campagne, j'ai senti qu'effectivement, moi que j'étais né en Israël, et des fois le Moyen-Orient, j'ai senti qu'il devient trop hermétique, non, être centriste, et c'est-à-dire qu'il est intéressé par lui-même, et que personnellement, ça m'a intéressé d'aller voir et c'est aussi le hasard qui m'a amené à Paris, le hasard qui je continue à faire mon travail. Alors Pineapple, comme je parlais l'autre jour, il est inscrit dans une trilogie, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous montrer l'autre film. C'était le premier film des trois d'une trilogie, que le premier était Ananas, c'est-à-dire sur cette boîte qui est microcosme de rapport. Le deuxième est un film qui s'appelait Bangkok, Bahreïn, que j'ai appris aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, d'objets visibles. C'est-à-dire que j'ai tombé à la Herald Tribune dans publicité faite par une compagnie registrée à Arabie Saoudite qui nous a proposé de prendre des ouvrières qui engagent, qui ne vont pas faire des grèves, qui vont faire travailler 24 heures sans problème, etc., et de nous fournir entre guillemets l'ouvrière à la maison, etc. Et j'étais allé avec mon équipe à Genève, dans le bureau de ILO, de International Labour Organization, et j'ai commencé à travailler aussi à travers aussi encore des images qui est une image publique, c'est-à-dire qu'il y a la boîte d'ananas. Il y a une publicité dans la Herald Tribune qui va vous faire des provisions d'ouvriers et de comprendre qu'est-ce que c'est le marché. C'est-à-dire, si le premier objet était cette boîte d'ananas qui incarne les relations d'ouvriers, le rapport de capital, les multinationales, l'exploitation du tiers-monde, le deuxième, le produit, c'était l'être humain, c'est l'ouvrier. Et là, j'étais allé à ILO, qui m'ont présenté, c'était très bien, m'ont présenté des rapports, un qui était sur les ouvriers. Je vous raconte un film qu'on ne va pas avoir d'extrait, mais vous comprenez comme ça les structures des trilogies. Que le premier rapport était sur Thaïlande. Il y avait une déclaration du ministre du Travail de Thaïlande qui était très fier que cette année, qui était au milieu des années 80, il a réussi d'exporter 300 000 hommes aux pays du Golfe, à Bahreïn, à tous les pays des Émirats, etc., qui sont dans un camp fermé comme des esclaves, aucun droit social, Et pour faire le grand projet d'architecture, on va parler un autre jour d'architecture. Alors, et dans le même temps que les 300 000 hommes par an exportés pour les pays du Golfe, de Thaïlande, aussi l'industrie sexe pour les touristes européens, américains, allemands, etc., était dans son gloire, c'est-à-dire qu'il y a, il y avait un autre rapport à Genève sur 500 000 femmes qui travaillent dans les bordellos de Bangkok. C'est-à-dire le schisme entre l'homme et la femme dans un pays de tiers-monde, d'exploiter les gens dans ce monde moderne, était la thématique du film que j'ai fait après, qui s'appelle Bangkok Baharin. Et le troisième film, qui était encore un film que j'ai jamais réussi de faire, j'étais envie de parler d'exploitation d'images, effectivement, de notre médium comme cinéaste. Et je mentionnais l'autre jour que, par exemple, j'étais envie de faire un film sur les cigarettes Marlboro, qui exploite l'image, c'est-à-dire qu'il a fait cette image de cowboy avec le chapeau, avec les petites cigarettes. Mais avec cette image de cowboy, elle parasite tous les westerns américains, qui devient une sorte de mode de publicité en exploitant les. Mais ce film-là, qui était supposé d'être produit par France Télévisions, j'ai envoyé quelqu'un à Genève à nouveau, parce que le centre de Philip Morris, les compagnies comme Castle & Cook, Philip Morris, c'est le propriétaire de Marlboro. À la place que les personnes que j'ai envoyées pour faire la recherche posent la question à Philip Morris, Philip Morris va poser la question à la personne que j'ai envoyée à faire la recherche. Et finalement, comme il est arrivé à Paris, j'ai eu un appel de présidence de France Télévisions qui m'a dit « Monsieur Guitaï, vous pouvez garder l'argent qu'on a donné comme à valoir, mais le film, on va pas lui faire. On va pas lui faire parce que Philip Morris finance de belles événements culturels, d'ailleurs le cahier de cinéma, etc. Il a souvent des publicités de Philip Morris, etc. C'est-à-dire le troisième volet de cette triptyque, il n'existe pas. Peut-être dans un des sciences, souvent je vais vous montrer le court-métrage que j'ai fait sur la demande de Gilles Jacob, qu'il a proposé qu'on fasse chacun un petit court-métrage sur le film qu'il n'a jamais réussi de faire. C'est comme une sorte de petite blague. Mais bref, les ananas qu'on va voir, je crois maintenant le dernier extrait, et Bangkok Baharin, il existe sur DVD, qui était édité par Studio Canal. Ça, les deux films, on peut voir. Là, on va voir une dernière partie de Ananas, et après, on passe au film sur Israël. Oui.
Many of us here in Pulumulok, inside Pulumulok town of Pulumulok, is very poor because of the sometimes.
Fait l'introduction. Alors, Journal de campagne, qui est un film dans les chronologies que j'ai fait avant Ananas. C'est un film que j'ai fait toujours avec Norita Viv. Qu'on a décidé d'aller en 1982. Si vous vous souvenez, 1982, c'est la première guerre du Liban. Et par toujours l'intuition et le hasard, alors, de science d'aujourd'hui, on va l'appeler l'hommage au hasard. Alors, on a commencé de filmer 4 ou 5 mois avant la guerre du Liban. Alors, on a commencé de filmer avant la guerre du Liban. Qu'est-ce qu'on a décidé de filmer ? On a décidé de filmer les constructions de la colonisation rapide et accélérée par Israël des implantations dans la Cisjordanie. Aussi l'histoire à Gaza, on a filmé à Gaza, on était à Gaza. Et aussi, pendant les tournages qu'on a fait, il y avait la guerre des Liban qui a commencé. On est parti aussi à Liban, on a filmé aussi à Liban. Alors, comme vous voyez, c'est-à-dire cette série de films, apparemment, il dit que j'ai fait presque 90 films, de courts-métrages, de 23 films de fiction, de films de commentaires. Et il devient une sorte d'open book, une sorte de diary, que chaque film il devient une sorte d'un autre chapitre, à la fois de mon propre histoire, l'histoire de la famille, les gens proches, mais aussi les thématiques qui m'intéressent dans l'époque. Et après Journal de campagne, c'est-à-dire aujourd'hui, je montrais les choses d'une façon pas chronologique, après Journal de campagne, qu'on va voir un extrait tout à l'heure, on est parti à Paris. Et là commence Ananas, Bangkok, et aussi commence la période que je vais commencer de faire des films de fiction, d'abord sur l'histoire biblique d'Esther, et comme celui-là qui était avec moi dans les leçons inaugurales, comme le Book of Amos, moi je suis très intéressé par la beauté des textes d'Ancien Testament, et la nécessité de faire un travail de réinterprétation à la Pausolini, c'est-à-dire de ne pas laisser cette série de textes d'éthique strictement aux interprétations réactionnaires, mais il faut faire un challenge, il faut retravailler et rendre hommage à cet écrivain qui écrit il y a plus que peut-être 3000 ans, un texte assez magnifique. Ça va être un sujet aussi un des leçons dans quelques semaines que je vais partager avec Alain Schnapp, qu'on va parler de mythologie et de cinéma. Alors avant tout ça, et ça touche aussi tout à l'heure les questions d'histoire dans le deuxième extrait, on était allé filmer un journal de campagne aussi avec cette confiance, peut-être un peu trop augmenté des pouvoirs du cinéma, que le cinéma, par les questions temporelles, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas, comme je dis la dernière fois, à la Speedy Gonzalez, on ne fait pas hacher l'image, mais plutôt construire de très grands blocs temporels pour le cinéma documentaire et les films de fiction pour vous donner une idée complexe. Et la première séquence que je vais vous montrer maintenant du journal de campagne, c'est-à-dire, même si je fais des films ailleurs comme Ananas, je reviens des fois de parler d'Israël, de son destin, que je suis très attaché, des assassinats de Rabin, des rapports à la religion à Kadosh, de Kippour, qui va être un sujet d'une autre leçon. C'est-à-dire, je suis inspiré, obsédé par cette histoire que je trouve fort. Et là, on était allé pour ce film documentaire, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans le cinéma documentaire, filmer des séries de points dans les Cisjordanie. La première séquence, qui était vraiment la première chose qu'on a filmée avec Nourit, il est passé devant la maison des maires de Nablus, les maires palestiniens de Nablus, qu'aujourd'hui on sait que ses pieds étaient sujets d'attentats par des extrêmes droites israéliens, bien avant Rabin, qu'il a perdu ses deux pieds. On est devant sa maison et l'armée ne veut pas nous laisser filmer devant la maison. Alors qu'est-ce que cette image il nous montre? Là, les caméras de Nourit, elle n'est pas seulement descriptive, elle est un agent actif. Parce que les soldats, ils ne veulent pas nous laisser filmer. Et ça c'est un peu de référence des choses qu'on a parlé l'autre jour, c'est-à-dire que les caméras, elle n'est pas innocente. Le cadre des caméras et des fois la façon de résister le tournage lui-même raconte aussi quelque chose sur le sujet dans lequel on est en train de filmer. Madeleine, on va passer le premier.
כל פעם שזה לא אסור סגור, אני לא צריך שום אישור שלך.
תביא לי את התעודת זהות שלך.
אני מוכן להראות לך ותגיד לי מה הסיבה.
זה נעמד לך, אני רוצה לדעת מי אתה בכלל.
אז אני מוכן להגיד לך מי אני.
אני רוצה הוכחה.
רגע, יש לך איזושהי סיבה שאתה רוצה...
יש לי סיבה, כן.
מה הסיבה?
הסיבה שאתה חשוד בעיניי.
מה אני חשוד בעיניך?
את זה, אם לא טוב לך, תגיד זה בבית משפט.
לא, אתה צריך להראות
איתך. אתה חשוד בעיניי, תזדהה בפניי.
חשוד בעיניך במה?
בשום דבר, בסדר. אתה צריך להזדהות בפניי, תזדהה בפניי. תן לי תעודת זהות.
הוא ביקש ותצלם.
אני ביקשתי שלא תצלמי, נכון?
ביקשתי שלא תיגע במצלמה, אתה מבין?
תביא לי תעודת זהות.
ביקשתי ממך לא אגעת במצלמה, תבין מה אמרתי לך?
לא, תעזוב, 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 תעזוב אותה שיצלם. תביא, תביא לי תעודת זהות.
אתה מוכן לא לגעת במצלמה? אני מוכן להראות לך תעודת זהות, אבל אל תיגע במצלמה.
יפה מאוד, אז תביא לי, תביא לי מיד.
תגיד לו שלא ייגע במצלמה.
שתכבה את המצלמה מיד.
תגיד לו שלא ייגע במצלמה.
אז אני נותן לך הוראה עכשיו לא לצלם.
תראה מה שעושה, תראה מה שעושה.
רגע, לא, לא.
אתה
מוכן לא להפעיל כוח, בבקשה, אל תפעיל כוח.
לא מפעיל כוח.
אני מוכן להראות לך תעודת זהות, אל תיגע במצלמה.
תביא לי את התעודת זהות קודם כל.
בבקשה. גם אתה.
מה עם שאלה? תביא לי תעודת זהות שלך. חבר'ה, אף אחד לא נכנס.
מה זאת אומרת? תוציא את התעודה שלך.
אנחנו נשלחנו לדיבור כאן שלנו. באנו אלה להביע את מחאתנו, מה שעודדת ממשלת ישראל, הממשלה שלנו בגדה המערבית, על היחס של העם הפלסטיני בכלל, והביע הגדה המערבית ויופעת המשפרה. בחרנו להיפגש עם בסם שקה, כיוון שהעם הערבית בגדה המערבית בחר את בסם שקה כמנהיגו, בחרנו להיפגש עם ההנהגה של העם, ולא להיפגש עם מי שהשלטונות.
תביא את התיק, נורי תמצא את זה. רגע, מה זאת אומרת? אתה לוקח לי את תעודת הזהות שלך?
בינתיים לא, אני מברר, אני נותן לך את זה.
רגע, אבל אתה נשאר פה, לא?
אני פה, כן.
רגע, מה זאת אומרת, אתה עוצר אותו?
רוני, תשים לי את זה, רוני.
זה תשאיר בשבילי.
את המלחקת של המחק תחביר.
למה את הדוד זאת שלך? אתה תיקחו כבר... פעם את הדוד זאת שלך.
כן, כן.
תוציא את זה מהשפיר.
טוב, נעשה
לך. תוציא את זה, תתעייפי את זה מפה לפני שתשבר לך את זה, את המצלמה. תוציא את התעודת זהות שלך.
יש לי תגיד צהוב, אני
חושב, אם זה... גידי, אתה יכול לעזור לי, תחפש את התעודת זהות.
רגע,
תראה את זהות שלך פה?
שלי, בתוך כזה צהוב. בתוך כזה נייר צהוב של ניקוי עדשות.
מה
שאתה
חגור בזה. לא, שאתה חגור. בשביל זה
אתם,
הם
לא
יש את החגור,
אתם כבר...
איך אני יפה?
כל כך
מבלקת. איך
שאתה חושב.
אתה מקבל אתם חזרה את התעודות? שלי אימו.
Is it often these problems?
Always the same, but now it's lucky for you that not disturbed too much.
There's a lot of this.
Before maybe 7 days, a journalist from America and two men come with him. They beat him very much.
Here,
beat him very much in his, in their legs, in their head. Nothing, only because they come with him. Nothing. And then allow them to see us how to beat the people.
So how is it to live like that all the time?
We must beer because we will reach our rights.
Yes.
And the fact will be a beer. Mm-hmm. Our rights. It is not our rights. We can accept it. It is not right to do like that. We will not accept it.
יש פה.
יש לא ראינו את הג'יפ.
לא, לא, לא.
Now, if anybody come here and hasn't anything, why do they disturb him like that? And they know everything in the house. Always they put a telescope to see what inside, if we want to sit, if we want to sleep, if we want to eat. Always they censor us in their telescope, like this.
Where from?
Our, from they stopped here, from the house, and from that, and from the other side.
Take photos?
Not photo, in telescope. In telescope. And they make this there laughing. Do like.
Alors, c'est encore plus long, le plan séquence. Alors, vous voyez que comme on tourne un plan séquence, à la fois, on a une idée de scène entière de ce conflit devant la maison de Bassam Chaka, dans laquelle nous, on suit le groupe de Paix Maintenant, le mouvement israélien de Paix Maintenant, qui veut visiter le maire de Bassam Chaka. L'armée ne nous laisse pas rentrer. La femme de Bassam Chaka nous raconte devant la maison. C'est ça la grande force du plan séquence, qu'il n'accepte pas les règles de montage traditionnelles. Et aussi, si je vais ajouter, au-delà des scènes qui étaient les scènes rough, des scènes concrètes, quelque chose, je vais mettre ça par écrit sur l'écran. Comme ça, vous pouvez distinguer des éléments qui sont une partie intégrale des scènes filmées et des éléments qui sont ajoutés par la mise en scène. Et ça, c'est très important parce que souvent, avec le film, et je parlais aussi mal de certains cinéastes qui utilisent le cinéma d'une façon qui indoctrine trop l'image. Le cinéma, c'est un médium assez fort, il n'a pas besoin d'être surindoctriné. On a la force d'image et la juxtaposition de séries de scènes qui liées à nos autres, il nous dit les choses qu'on a envie de dire. Alors on n'a pas besoin, même avec tout le respect à Eisenstein, on n'a pas besoin d'appliquer un système, une méthode de montage très serrée, très efficace, entre guillemets, qui est utilisée souvent aussi dans les films de publicité. Le cinéma, il a d'autres moyens, il faut chercher d'autres moyens que le cinéma nous offre, c'est-à-dire d'un journal de campagne presque à l'opposé de Ananas, dans lequel le camarade est très discret et nous donne des discours. Dans le journal de campagne, le camarade de Nourrit est très active, elle intervient, elle prend un point de vue dans les scènes. Mais elle arrête là, on n'a pas besoin aussi d'ajouter des voix off, etc. Cette plan-séquence, il dure plus que 10 minutes, c'est la longueur des pellicules de 16 mm de l'époque. Elle registre, effectivement, si on analyse, elle refuse de registrer les situations politiques qui étaient courantes dans cette époque, en 1982. C'est-à-dire, les gens me demandent souvent qu'est-ce que si on compare aujourd'hui 2018 à 1982, qu'est-ce qu'on peut dire dans le sens comparatif? Alors, on peut dire deux choses. D'abord, le niveau de connaissance et de reconnaissance israélo-palestinien, il est beaucoup plus évalué. C'est-à-dire, les deux parties, déjà, ils sont au courant que l'autre existe. C'est pas mal. Et même ils sont au courant que les autres, ils ne sont pas en train de partir. C'est pas mal non plus. Mais le niveau, les possibilités d'action politique depuis l'assassinat de Rabin, qui va être un sujet d'une autre leçon, il est diminué. C'est-à-dire, depuis l'assassinat de Rabin, il y a 23 ans, il y a beaucoup moins de possibilités ou d'options ou même de désirs d'essayer de régler ce conflit. C'est-à-dire qu'on a des processus qui vont dans le sens inverse. Mais je crois que comme ça, ça, si on a le temps, je vais vous montrer le dernier extrait d'aujourd'hui, sinon on va passer ça la semaine prochaine. C'est-à-dire que c'est une région que les médias est très active. Et on peut dire heureusement et malheureusement au même façon. C'est-à-dire, elle est très active, c'est-à-dire on est au courant de certaines choses, même s'il y a pas mal de manipulations, et même les frères ennemis israélo-palestiniens instrumentalisent les médias et la façon que représente le conflit. Ils trouvent que les médias doivent être participés dans le conflit comme une sorte d'arme. Alors il y a une sorte de pollution de capacité d'analyser vraiment qu'est-ce que sont les options politiques. Ils sont en train d'indoctriner chacun à son façon, et même avec une différence de position, parce que quand même c'est Israël qui occupe la Palestine, et pas le sens inverse. Mais les médias... Et la question est toujours, parce que bon... Mission ici de parler de cinéma, comment le cinéma il peut dévoiler avec cette machine de reproduction que la caméra, et les machines de reproduction sonore et le montage, dévoiler des processus qui sont contradictoires. Moi, j'ai espéré de vous montrer un extrait aussi d'un film beaucoup plus récent qui s'appelle « À l'ouest de Jordan », que j'ai fait, qui était présenté l'année dernière à la quinzaine de réalisateurs à Cannes, dans laquelle j'étais allé avec des groupes comme celui-là, des journaux de campagne, des groupes de NGOs israéliens qui travaillent avec les Palestiniens. C'est-à-dire qu'il faut... Je cherche aussi le courant inverse, c'est-à-dire les gens que je trouve très importants et très courageux qui vont aller travailler ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont construire le pont où tout le monde veut brûler le pont. avec cet grand fils de faire de fêter la violence, etc., qui malheureusement continue. Alors je trouve que ce groupe-là, qui sont minoritaires, ils sont importants pour garder les mémoires, qui était une des raisons que j'ai fait le cinéma, pour conserver la mémoire, parce que comme j'ai dit l'autre jour, la mémoire c'est un agent actif dans l'expérience contemporaine. Ce n'est pas strictement sentimentaliste, ce n'est pas strictement de bonnes leçons de profs d'histoire, mais c'est un agent actif. Il donne forme à notre conscience et surconscience. Il participe dans les formations de nos opinions de conflits. Alors, on va aller dans un autre extrait. Merci.
מה קרה?
הנער. מצאנו את הנער שוכב בשלג. הוא קופה מקור.
שלמלה.
הוא מתעורר. הוא מתעורר.
שלמלה, מה עשית בחוץ? ספר לאמא, מה עשית בחוץ בליל שלג כזה, שלמלה, אה?
רציתי למטוע את גרגר הרימון באדמה כדי ששורשיו יתחברו לשורשים שלו בירושלים.
אחר המקרה הזה חליתי. בכל ימי מחלתי הרגשתי מין הרגשה נפלאה של התרוממות הרוח. בטוח הייתי שגרגר הרימון באמת ישלח שורשים ויתחבר לשורשיו שבירושלים. אחר כך, ברבות הימים, כשגדלתי, עליתי ארצה להתחבר לשורשים שלי בירושלים. רק כאן הרגשתי קרוב לשורשים שלי. סיפורים על געגועים לירושלים.
אבל תספר קצת על החוויות של להתחיל מקום חדש וכך הלאה.
שמע, בהתחלה זה קצת מפחיד את האנשים. את הנשים, לא את הגברים, כן?
כן.
ושהם באים למקום, הם רואים שזה לא כל כך רע. וטוב להם.
לא! לא, רוקי!
בסך הכל להגיע לעיר זה עניין של חצי שעה, ש...
די, די!
זה שיש לנו נוף כזה יפה, ורואים את כל הארץ מכאן, ש... זה שווה הרבה, המון תואפות. גם למדינה. וגם לנו.
מאיזה בחינה למדינה?
למדינה, מבחינה כספית, אבל יחסית זה עולה פחות מה שלבנות לזוגות צעירים בעיר. Okay. אם היו בונים פה לזוגות צעירים, אז זה יהיה הרבה יותר טוב.
אתם גרתם קודם בעיר?
כן, ברמת גן. אין לי שום קשר לרמת גן.
Alors, comme je vis que l'air a pensé, alors on va aller un peu plus vite. Et je vais vous montrer le dernier extrait du journal de campagne qui parle, comme d'ailleurs à Ananas, des rapports entre les mythologies, l'histoire et l'histoire contemporaine. Alors, tout ce film, journal de campagne, il est composé de plans séquences et de traces d'autres histoires comme cette. Mission radiophonique pour les enfants, c'est-à-dire comment on installe une perception vis-à-vis de ce territoire, que c'est vrai, que c'est le lieu de naissance du judaïsme, en plus que les choses qui sont très complexes dans cette situation, c'est le fait que le lieu historique de ville historique d'Hébreu, il y a 2000 ans, il n'est pas sur les zones côtières où Israël se trouve aujourd'hui. לקות, תל אביב, עיפה, אשקלון, אשדוד, תוס את קוטלה, אתה לטריטואר דה טריבו פגן וקננאית. קננאית, תודי? קנניה. מלסית דה טריבו ז'ויף דה פוק, אתה אקזקטמה אויליה לפלסטינה עוד'וי, סתדיר, זה חברון, בית להם, ג'רוזלם, נבלוס. אלור, סט אוברלאפ דה דה גרופ, כלר ממואר אנסקרי, לממואר אנסיין, אלה ממואר קונטמפורן, אקזקטמה סור למם סיט, il rend les choses encore plus compliquées. Parce que c'est vrai que la création de mémoire collective juive, il n'est pas du tout dans la zone où Israël aujourd'hui est situé, il est vraiment dans les zones où il y a les Palestiniens aujourd'hui. Je parle encore de questions de mémoire et de façon qu'elle complique les solutions politiques. C'est-à-dire, même si on est très envie de voir des solutions politiques, il faut rendre compte, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure vis-à-vis Ananas, il faut être au courant. Après, on peut décider tout ce qu'on veut. Alors, ça rend les choses très compliquées, les mystifications des territoires, c'est-à-dire le fait que, comme écrit Gershom Scholem, les tribus juives arrêtaient d'être guerriers à partir du VIe siècle, ils ont accepté d'être les sujets de l'histoire, mais pas être actifs dans les formations de leur destin. Et là, il y avait beaucoup de souffrance, le nomadisme, d'être discriminé, d'être brûlé, des séries de décrets pendant tout ce siècle contre les Juifs, et leur fragilité d'être apatrie. Et on ne va pas faire aujourd'hui un grand leçon de cinéma, mais comme vous savez, Theodor Herzl, qui est le créateur du sionisme, il était au début pour l'assimilation des Juifs à Europe. Mais comme par hasard, il était envoyé par son journal, le Neue Wiener Zeitung, ici, à Paris, il a tombé, encore le hasard, dans le processus de Dreyfus. Il a vu que cet officier français, complètement fidèle à la France, était manipulé strictement parce qu'il était juif. Et là, Hertz est arrivé à la conclusion qu'il fallait aussi un morceau de territoire pour les Juifs, c'est-à-dire l'autodétermination. Et d'ailleurs, Hertz, il n'a jamais trouvé un endroit pour mettre son premier congrès sioniste, parce que tous les grands rabbins allemands de Munich, ils sont interdits qu'ils fassent les conférences là-bas. Il n'a pas trouvé aucun lien européen pour faire le premier congrès sioniste, parce qu'il a dit, si vous parlez d'autodétermination pour les Juifs, ça va créer encore des montées d'antisémitisme, ça va créer de l'hostilité, on ne peut pas accepter. Et finalement, le seul endroit qu'il a fait le premier congrès sioniste en 1897, après qu'il a écrit son célèbre texte Judenstaat, l'État juif, était à Bâle. Moi, j'étais allé à Bâle pour faire un de mes projets, sur Herzl d'ailleurs. Effectivement, le seul endroit qui acceptait que Herzl va faire le premier congrès sioniste, c'était où? C'était dans un casino. D'ailleurs, le destin nous raconte que ce n'est pas un hasard, peut-être. Alors, bref, cette histoire contemporaine d'Israël, il est aussi la conclusion des souffrances énormes dans des siècles de discrimination par l'Église, par l'autre force. Et il est la raison d'être de créer cet État d'Israël. Mais avec cette perte de notions de nomadisme et l'attachement excessif au territoire, on arrive dans le stade qu'on est aujourd'hui, dans lequel on fait des fétichisations des territoires. Et on est dans le stade qu'on est aujourd'hui, qui est très grand attachement au territoire. Alors, comme je vis qu'on approche à la fin, je vais vous montrer le dernier extrait qui vient du journal de campagne. Et celui-là, il commence par la cérémonie, c'est-à-dire en 1982, quelques semaines avant la guerre du Liban. Pour remettre en contexte, Israël est géré par la droite, par Begin. Et quelques semaines avant la guerre du Liban, Begin décide de faire une grande cérémonie dans le désert de Judée pour réenterrer les restes des combattants de juifs il y a 2000 ans, c'est-à-dire la célèbre rébellion de Bar Kokhba, qui d'ailleurs a terminé la souveraineté juive, parce que c'était une rébellion qui était considérée comme une provocation par l'Empire romain. Et après, tous les juifs étaient exilés, esclaves vers Rome, etc. Et là, la naissance des communautés juives à Europe. Et alors, comme on a vu déjà Ananas, c'est-à-dire cette multi-trace archéologique, l'archéologie contemporaine m'intéresse, et aussi par les coïncidences, j'ai décidé d'aller filmer avec un autre caméraman qui a fait avec ma house, Emmanuel Aldema, les cérémonies d'enterrement des restes des combattants juifs. Si je commençais aujourd'hui la leçon par une citation d'André Breton sur le surréalisme, assez surréel. C'est-à-dire Israël tout puissant aujourd'hui, elle prend l'armée pour faire cérémonie religieuse, pour enterrer l'os des rebelles juifs il y a 2000 ans. Et le recyclage des mythologies il y a 2000 ans inspire aussi la guerre du Liban, qui est quelques semaines plus tard. Alors vous pouvez voir les bandes sonores qui continuaient. Je veux qu'on va analyser l'impact sonore, les bandes sonores qui commencent dans les cérémonies des déserts et va continuer et plus tard sur le début de la guerre du Liban, où j'étais allé physiquement et moi j'ai fait la caméra parce que Nourit était arrêtée à la frontière. Elle a dit que les femmes n'ont pas le droit d'entrer de filmer. Alors j'étais le caméraman dans les dernières séquences d'aujourd'hui.
אבותינו, הקדושים, הגיבורים, ראו נא היכן סיריה את פלסטינה בפי אויבים, אבל בפי עמנו ארץ ישראל, ישראל ויהודה קמו לתחייה, ובאו שבטי ישראל מארבעת אלפות הארץ ושבו בנים לגבולם, ושחררנו את כל ארץ ישראל המערבית וגאלנו את ירושלים ויחתנוה לעיר אחת לדורי דורות. ירושלים לעד עומדת, לנצח תהיה בירתנו. סביב קבר האחים הזה, שבו טמנו את עצמותיהם של לוחמי בר כוכבא ובני דורות, עומד נשיא ישראל, חברי ממשלת ישראל, מורינו ורבותינו, תלמידי החכמים הדגולים, הרבנים הראשיים, ומעל לכל מבחינה היסטורית, חיילי צה"ל, אלופי צבאנו ומפקדיו, הצבא העברי שקם לתחייה, המנצח,
אשר
החזיר לעמנו את מולדתו, את
חירותו
ואת כבודו. אבותינו גיבורי הדהירה, בשורה לנו, לכם, שבנו, חשבנו על מאין באנו.
אבל יש מעבר, יש גם מעבר מנחל חבר. יש מעבר מכיוון מאור, ואפשר להגיע לפה.
ויגיע דומלל פה בארץ ישראל, מגיעים
למחנה הרומי, מגיעים
לדברי הקהילה. חשבנו, ולא נזוז מפה.
טיול מאורגן לגדנאים פה, היום.
היום אני לא חושב, אבל יש טיולים.
אז דובר שמחר זה יום הגדנא היום.
יגיעו, יגיעו כאן.
תפילת אל מלך המים, מפי החזן הצבאי הראשי, גן אלוף אריה בר.
שמר, טוב! שמר אחדף, צק!
Seulement deux choses avant qu'on termine. Parce que... Alors, journal des campagnes 1982, c'est plutôt pour nous rendre conscients de la possibilité de cinéma avec l'image, les sons, le rapport entre cette prière juive qui va continuer sur le territoire libanais et comment le cinéma peut humaniser le regard vers l'autre. L'autre, c'est les ouvriers aux Philippines. L'autre, c'est les Palestiniens. C'est l'autre, c'est même les gens qui gèrent la structure des ananas. C'est des... C'est moi que je fais tout ce bruit, oui. Alors, c'est des questions qui m'ont intéressé parce que comme je n'ai jamais fait une école de cinéma, j'étais formé seulement dans l'architecture. Et d'ailleurs, hier, dans cet expo de Picasso, que je vous conseille vraiment, ils m'ont expliqué que lui, comme il a fait les céramiques, il n'a jamais pris un prof de céramique, ni un prof de etching, c'est-à-dire comment on arrive avec un regard extérieur, de peut-être renouveler, de poser des questions sur les formes habituelles utilisées par les cinémas, les montages, les conventions, etc. Parce que comme c'est une forme très, très intéressante, le cinéma, surtout pour nous donner une idée qui n'est pas déjà établie d'objets, de boîtes d'ananas, de situations politiques. Et malheureusement, je ne peux pas vous montrer des films entiers parce qu'on est quand même limité, mais j'ai même la semaine prochaine que je vais partager avec Jean-Michel Frodon qu'on va parler de Kippour. C'est-à-dire la question va être comment on représente la guerre, comment le cinéma il peut, par cet respect des plans séquences, par le changement des rythmes de regard, et pour sortir des conventions de présentation, il peut nous montrer des propositions comment on présente la guerre. Je vous remercie d'être là